La prévention sera le pivot de la stratégie nationale de santé discutée à l'automne.
4 juillet 2017.
Des maladies que l'on croyait éradiquées se développent à nouveau sur notre territoire.
Édouard Philippe, à l'Assemblée nationale.
Des enfants meurent de la rougeole aujourd'hui en France. Dans la patrie de Pasteur, ce n'est pas admissible. L'an prochain, les vaccins pour la petite enfance, qui sont unanimement recommandés par les autorités de santé, deviendront obligatoires.
Après cette annonce, le nombre de vaccins obligatoires s'étend de 3 à 11 pour les enfants nés à partir de cette année. Cette extension est la réponse des autorités à la méfiance grandissante à l'égard des vaccins. C'est une particularité française. D'un côté, il y a chez nous une couverture vaccinale globalement élevée, à des exceptions notables, comme la rougeole, pour laquelle la France a l'un des taux de vaccination les plus faibles du continent. Et de l'autre côté, il y a autour de nous un débat vif comme jamais autour de l'utilité de certains vaccins. Il suffit de regarder le dernier baromètre de Santé publique France, il date de 2016. Un Français sur 4 se dit défavorable à la vaccination. Cette proportion a bondi après la campagne ratée contre la grippe H1N1 à l'hiver 2009-2010. D'un point de vue scientifique, médical, financier et en termes de communication politique également, le fiasco a été retentissant. Depuis, la défiance n'a eu de cesse de se propager, au point donc d'en arriver à cette liste de 11 vaccins obligatoires.
Être maintenant le seul pays européen à avoir une tripotée de vaccins comme c'est obligatoire, c'est une preuve d'échec de la communication scientifique des autorités sanitaires sur le vaccin. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à vous convaincre, donc on vous oblige.
Qu'est-ce qui favorise cette méfiance contre ce qui fut unanimement qualifié de progrès? Comment ce discours s'est autant diffusé? Anti-vaccin, le doute inoculé. C'est un reportage d'Hélène Langlois et Jérôme Jadot.
France Inter. Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
C'est juste là, mais c'est complet.
Il y a du monde.
Oui, il y a beaucoup trop de monde là.
On est à une conférence d'Henri Joyeux à Courbevoie, on est à côté de Paris. Le professeur Henri Joyeux, c'est une figure de la contestation de certaines vaccinations, une figure controversée, radiée de l'ordre des médecins avant que sa radiation soit annulée, une figure influente. Sa pétition pour des vaccins sans aluminium a recueilli plus d'un million de signatures. Il donne très régulièrement des conférences un peu partout en France, ici sur l'alimentation, mais on y parle aussi de vaccination.
Vous avez des campagnes de publicité actuellement sur la vaccination contre la grippe. Je ne suis pas opposé. Moi, on me l'offre. Je refuse. Je n'en ai pas besoin. Je l'offre à un réfugié qui peut en avoir besoin. Par contre, sur la publicité, vous verrez quelque chose d'intéressant. Il est écrit « sans aluminium ». Tiens, tiens, pourquoi on en fait la publicité? Si vous regardez également les vaccins vétérinaires, sans aluminium. Tiens, tiens. Et pourquoi pour nos enfants, dans la nouvelle loi, et je ne suis pas contre la loi, je suis contre le fait que sur les 11 vaccins qui sont obligatoires, on vaccine l'enfant à 2 mois alors qu'il n'en a pas encore besoin s'il est allaité par sa maman, premièrement, et que deuxièmement, sur les 11 vaccins, il y en a 8 qui ont de l'aluminium, et que l'aluminium, je l'ai démontré au Conseil national de l'ordre des médecins, la dose, écoutez-moi bien, elle est 7 à 17 fois la dose toxique en fonction des produits qui sont utilisés. Comment cela se fait-il? Ben oui, il y a des erreurs.
Selon l'Académie de médecine, l'aluminium des vaccins injectés aux nourrissons expose à un risque très inférieur aux normes de sécurité fixées par l'OMS et la Food and Drug Administration. Comment vous appelez?
Aurélie.
Est-ce que les arguments du professeur Joyeux vous ont convaincu sur la vaccination?
Moi, déjà, personnellement, j'ai mon propre avis sur la vaccination. Donc, ces arguments n'ont fait que confirmer ce que je croyais déjà, moi, en tant que personne et en tant que maman.
C'est-à-dire?
De ne plus faire vacciner mes enfants.
Ils ont quel âge, vos enfants?
10 et 12 ans.
Vous les avez déjà fait vacciner?
Malheureusement, oui. Donc, elles ont, comme moi, les vaccins soi-disant obligatoires qu'il faut faire absolument pour pouvoir aller à l'école. Et voilà.
Pourquoi vous le regrettez?
Je pense, c'est pas forcément un regret, c'est qu'on, du coup, on croit en la science, on croit en ce que les médecins ou certains médecins nous disent et nous conseillent, vu qu'ils ont fait des études. Moi, je suis pas médecin, je suis médecin vétérinaire, je m'occupe des animaux, je suis pas médecin. Donc, je crois en ce qu'on me dit, je crois en ce qu'on me conseille. À partir du moment où on se renseigne, où on grandit, on va chercher plus loin certains éléments qui nous prouvent que c'est pas forcément bon, ni pour nous, ni pour notre santé, ni ou ce qu'on croit nous dire. Là, pour le coup, oui, on a un autre avis et du coup, bah, on est déçu.
Qu'est-ce qui vous gêne dans le vaccin ?
On en fait, hein, nous aussi, tous les jours aux animaux. C'est pas le souci du vaccin en soi, c'est le souci de ces adjuvants, c'est le souci de ces choses qui sont rajoutées, qui sont pas nécessaires, je pense, au vaccin en lui-même pour essayer de protéger la nature, l'être humain ou les êtres qui doivent avoir des vaccins.
Quand et comment vous êtes devenu hostile à la vaccination ou réticente?
Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, quand j'ai eu des enfants qui avaient déjà eu des vaccins bébés et quand il a fallu faire le rappel, où là je me suis intéressée vraiment un peu plus au sujet et là j'ai dit non, je ne les fais pas vacciner quoi.
Vous avez renoncé à certains rappels?
Oui.
Pour quel vaccin?
La plupart.
Il n'y a pas eu de problème de scolarisation?
Oui et non, parce que tous ceux obligatoires qui étaient censés être faits avaient été faits. Donc à partir de là...
On n'est pas là pour faire une enquête, mais non, vous n'avez pas fait les rappels des TB.
Non.
Et on vous a jamais rien demandé.
Non.
Jeremy Ward, je suis sociologue et je travaille sur les vaccins depuis 7 ans.
Qui sont les anti-vaccins ?
Lorsqu'on pense aux anti-vaccins, lorsqu'on pense aux critiques des vaccins, on pense spontanément à des gens qui rejettent toute forme de vaccination. C'est la forme historique de critique vaccinale. Hein. Ça émerge dès les premières campagnes de vaccination au début du 19e siècle. Il y a beaucoup de personnes qui nient la réalité du principe de la vaccination. Voilà. Donc, et ces groupes-là, ils existent encore.
Quel est leur profil ?
On a des groupes et des personnes qui sont très focalisées sur les médecines alternatives. Alors certains avec des formes assez extrêmes d'homéopathie, d'autres même proches de mouvements qui prônent des spiritualités alternatives. On a aussi des personnes proches des mouvements écologistes radicaux, hein, proches de la deep ecology, des choses comme ça. Ça c'est d'un côté. On a aussi une partie de mouvements très conservateurs appartenant à des mouvances d'extrême droite. Les lefébristes, il y a une partie d'entre eux qui ne se font pas vacciner.
Pour eux, quelle est la philosophie derrière ça ?
C'est l'idée de la providence dans les mains de Dieu et qu'il ne fallait pas se substituer au destin qui a été choisi pour nous par Dieu. Et alors à côté de ces groupes, vous avez pour le coup d'autres formes de critiques qu'on appelle populairement conspirationnisme, des personnes qui se focalisent sur les francs-maçons, parfois même les Illuminati, etc., qui sont aussi très investis sur ces questions-là. Des groupes qui refusent le principe de la vaccination, ils existent encore. Par contre, ils sont marginaux. Ce que l'on a depuis la fin des années 90, ce sont des nouveaux groupes qui, à mon avis, ne doivent pas être appelés anti-vaccins. Ce sont des groupes qui, contrairement aux précédents, ne rejettent pas toute forme de vaccination, mais se focalisent sur un vaccin en particulier, un produit que l'on met dans un vaccin, ou une campagne de vaccination en particulier, voire même juste la recommandation d'un vaccin à une sous-population particulière. C'est ce qu'on a eu au moment de l'hépatite B, c'est ce qu'on a aujourd'hui autour de la thématique de l'aluminium. Vous avez des associations qui disent publiquement, nous les vaccins, on trouve ça très bien. Notre problème, il est simplement avec ce vaccin-là. Il est seulement avec cette substance-là. Et alors, donc, on a tendance à se focaliser justement sur ces anti-vaccins traditionnels, souvent parce qu'ils ont des croyances qui sont assez exotiques, donc remettre en cause la science de Pasteur, etc. Puis c'est à la fois exotique et choquant. Alors qu'en fait, la raison pour laquelle on a autant de doutes vis-à-vis des vaccins aujourd'hui, c'est précisément parce qu'on a ces nouveaux acteurs qui ont un discours scientifique beaucoup plus mesuré. Et donc, ce sont ces acteurs qui portent ces controverses vaccinales dans l'espace public.
Vous êtes arrivés. Bravo. Le défi, hein. Ouais, c'est un long parcours, hein. Ouais, on vous avait décrit un peu
le
chemin. Bienvenue.
On est dans un petit village au sud de la France, on est à la campagne, chez Thomas et Marie. C'est un couple qui a décidé de ne pas faire vacciner ses enfants. Ils en ont 4, âgés de 9 mois à 9 ans. Pour préserver leur anonymat, nous avons modifié leur prénom.
C'est bon.
C'est tout.
C'est
bon.
Ça se casse. On a...
J'ai 38 ans, je suis naturopathe et maman de 4 enfants.
Voilà, donc j'ai une petite quarantaine, je suis charpentier.
Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait ce choix de ne pas vacciner vos enfants ?
Au moment où je suis devenue maman... Je suis rentrée dans ce grand chaudron de débat du pour et contre. Et assez rapidement, j'ai compris que je n'étais pas vraiment contre les vaccins, mais que j'en sentais pas la nécessité pour mes enfants. Évidemment qu'il y a des vaccins qui seront nécessaires chez certaines personnes, chez certains enfants. Et ça serait dommage de passer à côté de cette possibilité-là. Et inversement, je pense qu'il y a des situations, notamment des situations de terrain, de maladies auto-immunes, où tout ce qui va accompagner le vaccin a quand même un trop grand risque d'effets secondaires. Et je trouve dommage de rendre obligatoire dans ce contexte-là.
Est-ce qu'il y a aussi une dimension politique au choix que vous avez fait de ne pas les vacciner, vos enfants ?
Le contexte politique ne favorise pas la confiance. Il faut quand même bien voir qu'il y a des liens entre les intérêts privés des laboratoires et les choix politiques.
Comment est-ce que votre choix est perçu par votre entourage ? Est-ce que ça pose problème ?
Ça ne pose pas de problème dans mon entourage. Je me pose plus personnellement la question de l'impact de mon choix sur les autres que du regard des autres sur mon choix. Mon troisième, quand il avait la coqueluche, on l'a pas décelé tout de suite, donc il a été contagieux pendant un moment chez l'assistante maternelle qui le gardait, avec d'autres enfants. Et un de ses autres enfants a une maman qui était enceinte. Et donc la maman a aussi attrapé la coqueluche avec les quintes de toux, les vomissements. Et donc elle a eu peur de perdre son bébé. Elle a fait un vaccin en urgence qui visiblement a fonctionné. Elle m'a clairement fait comprendre que mon choix était irresponsable. J'étais absolument désolé pour elle. J'ai admis le problème que ça a posé. Et en même temps, je me suis dit, mais je reste sur ma position quand même, que la coqueluche, c'est une maladie infantile, qu'on peut s'en soigner. Combien de personnes meurent ou perdent leur enfant de la coqueluche en France aujourd'hui, c'est certainement dérisoire. Et bien sûr, il n'en faudrait aucun. Mais que fait le vaccin dans ce cas-là ? Peut-être qu'il supprime la vigilance et la connaissance populaire que les gens peuvent avoir des maladies infantiles.
Pour vous, il y a une utilité à faire ces maladies quand on est enfant ?
Oui, je pense que ça fait partie de la constitution du système immunitaire, du point de vue biologique, au point de vue aussi de la constitution personnelle, du caractère de chacun, de chaque enfant. Et puis quand on les a vécus, nous, en famille, ça a scellé quelque chose... au point de vue familial, entre nous et nos enfants. Et
c'est-à-dire ?
Ça a été, pour les maladies les plus fortes, comme la coqueluche et la rougeole, une épreuve initiatique. On a réussi à traverser cette épreuve ensemble, et on en est clairement ressorti renforcé dans nos liens familiaux, et l'enfant renforcé dans sa manière d'aborder la vie chaque jour.
C'est vrai, quand on a eu 3 enfants qui ont eu successivement la coqueluche ça dure en moyenne entre 4 et 6 semaines par enfant. Alors, ils les ont évidemment pas fait en même temps, donc c'était un peu intercalé. Donc, on a eu 6 mois avec des toutes petites nuits, avec quand même la peur aussi d'accompagner son enfant avec des quintes qui terminent avec des vomissements toutes les demi-heures dans la nuit, avec un visage qui parfois devient violet parce que l'enfant arrive plus à respirer. Ben, c'est hyper impressionnant et nous, il s'est trouvé qu'on a réussi à aménager notre vie, à s'arrêter, à travailler moins à ce moment-là pour accompagner les enfants au mieux. On avait aussi, on avait des ressources. On n'avait pas les vaccins, mais on avait des plantes, de l'homéopathie, des tisanes, des huiles essentielles, un changement alimentaire pour accompagner au mieux ces enfants-là. Mais c'est sûr que c'est très très engageant. Et moi, je comprends complètement que certaines personnes font le choix de ne pas vivre ça parce qu'elles sont pas disponibles, elles sont pas disposées, parce que c'est éprouvant pour tout le monde.
Il y a une question qui se pose forcément pour les enfants qui ne sont pas vaccinés, c'est celle de la vie en collectivité, de la scolarisation. Comment ça se passe pour vos enfants ?
Donc, nos enfants sont vaccinés sur le carnet. Et ça se passe bien comme ça.
Vacciné sur le carnet, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer à quoi ça correspond ?
Ça veut dire que officiellement et sur les papiers, nos enfants ont bien été vaccinés, donc ils peuvent être admis dans les différentes collectivités. Dans la réalité, ils n'ont pas été administrés de ces vaccins.
C'est un médecin qui a accepté de vous faire ça ?
C'est un médecin qui a accepté de nous faire cette vaccination.
Je suis pas en paix complètement avec ça parce que j'ai quand même l'impression que c'est pas très transparent, que c'est pas vraiment assumé. Et en même temps, il y a un côté de moi où voilà, on a fait les démarches pour essayer de chercher le DTP, pour essayer de ne trouver que les 3 vaccins qui étaient censés être obligatoires. On a fait tout ce chemin, on a rencontré beaucoup de portes fermées. J'aurais bien voulu pouvoir communiquer autrement avec les médecins, avec le suivi médical, avec la collectivité, les collectivités qui accueillent nos enfants. Mais visiblement, là, c'était pas possible. Donc on a été un peu poussé à ça.
Et ce qui a été possible pour vos aînés ne l'est plus pour votre dernier enfant ?
Les médecins qui ont pu nous accompagner, parce qu'ils étaient plusieurs là-dedans, ils sont vraiment trop sur la sellette. Enfin voilà, ils n'ont plus envie ni même de faire de certificat de contre-indication. Mais là, il y a plus personne qui peut nous accompagner là-dedans. Donc pour notre dernier enfant, on ne sait pas encore comment vacciner le carnet, pas l'enfant, le carnet et l'enfant. On ne sait pas encore.
Depuis la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 en 2009-2010, la méfiance envers les vaccins a bondi. Selon une étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui date de 2016, la France est le pays qui doute le plus des vaccins. 41% des Français estiment qu'ils ne sont pas sûrs. D'après le dernier baromètre de Santé publique France, c'est un Français sur 4 qui se dit défavorable à la vaccination en général. On va voir ce qu'il en est dans le cabinet du docteur Françoise Craven. Elle est pédiatre ici dans le 18e arrondissement à Paris.
France Inter. Interception, le magazine de la rédaction.
Je me souviens plus des questions qui vous avaient ennuyées quand on en avait parlé.
Par rapport au fait qu'il y ait 6 vaccins dans un seul et que du coup il y ait un cocktail de vaccins pour l'enfant, je trouvais ça dangereux.
Parce que
c'était beaucoup en une seule injection. Et pourquoi il n'y avait pas un seul vaccin par Une souche par vaccin, voilà.
Oui, alors ça voudrait dire qu'il faudrait le piquer 6 fois, plus 1, ça fait 7 piqûres le même jour, ou décaler tous les jours, c'est déjà inacceptable pour le bébé. Bon, mais non, sur le plan de la tolérance du vaccin, en fait, on a fait des études pour apprécier la tolérance et on se rend compte que maintenant, les vaccins qu'on fait et qui contiennent 6 valences, alors que les premiers vaccins n'en contenaient que 3, sont finalement beaucoup moins immunogènes et sont beaucoup mieux tolérés. C'est-à-dire que maintenant, ce que je vous avais dit, je pense, c'est que peu de vaccins donnent de la fièvre, des réactions importantes, alors que les vaccins qu'on avait il y a 20 ans, on avait 80% des enfants qui faisaient une réaction de fièvre, qui n'était pas une réaction grave, mais qui montrait bien qu'il y avait quand même une petite intolérance. Et là, ils sont beaucoup mieux tolérés. Voilà, c'est pour ça qu'on les fait comme ça. Ça vous fait un rappel, et c'est bien de le faire. Moi, je suis prête à répondre à chaque consultation s'il le faut. Hein. Vraiment. Voilà.
Ah, il est aussi occupé. Ma pauvre. Alors. Bon, alors, asseyez-vous. Voilà. Et vous me donnez le carnet de santé.
Alors, d'abord, elle va comment, cette jeune fille?
Elle va très bien. Bon. Elle est en grande forme, Isée. Bon.
Alors, on va parler un petit peu des vaccins. Donc, vous avez fait le premier. Voilà. Ça s'est, voilà, ça s'est bien passé.
Oui,
pas eu de réaction.
Non.
D'accord.
Non.
Bon. Et donc le prochain est dans un mois.
C'était préparé psychologiquement à...
Il faut tout recommencer. C'était dur la préparation.
Ah, mais c'est sa grande sœur qui s'en est occupée.
C'est vrai.
Elle lui a raconté. Elle a pris sa trousse de médecin. Elle lui a fait des piqûres dans les cuisses. Oui. Elle lui a expliqué que ça faisait mal, qu'elle allait pleurer, mais que c'était nécessaire.
Désolée. Ça pique les vaccins.
Oui.
Hein, d'accord. Ça pique, mais ça fait du bien et ça protège. D'accord. Donc on va l'examiner, puis après on va discuter du reste.
D'accord. Ouais, ça marche. Alors moi je m'appelle Sophie et je suis venue avec Isée qui a 4 mois et qui vient se faire vacciner aujourd'hui.
Vacciner contre quoi aujourd'hui?
C'est le rappel d'été polio. On ne peut plus aujourd'hui ne pas se vacciner, vu les progrès de la science. Vu les maladies que ça a éradiquées, je pense que c'est quelque chose dont on ne peut plus se passer. On a laissé une place énorme aux Novax, aux gens qui sont contre les vaccins, et un espace de communication énorme dont ils se sont emparés sur tous les réseaux sociaux, sur beaucoup de médias populaires ou populistes, au choix. Et qui crée un climat de crainte, parce qu'on voit des vidéos d'enfants qui, après une vaccination ou un rappel de vaccination, commencent à avoir des comportements autistiques. Donc, effectivement, on peut pas nier que parfois il y a un problème. On peut pas nier que ces gens-là n'ont aucune réponse des services sanitaires, n'ont aucun accompagnement. Ça crée un appel d'air pour les gens qui sont contre, et ça crée une certaine anxiété. Chez les parents, malgré tout. J'ai un sentiment de malaise que je n'avais pas pour ma fille aînée. Une crainte de voir mon bébé mal réagir. Je la suis particulièrement. Je suis un peu moins à l'aise. À la nuit, je vais regarder si tout se passe bien, si elle respire bien, si elle n'a pas de convulsions, si...
Vous êtes allé voir, vous, sur ces réseaux sociaux, ces vidéos?
Mais moi, je n'ai pas eu besoin d'aller les voir parce qu'elles tournent, en fait. On vous les pousse, on vous les envoie, vous les recevez, elles sont postées. Donc, sans les chercher, on les voit. Des professeurs un peu émérites qui prennent la parole en public de façon un peu virulente ou un peu confusante pour les gens. Donc, même si on ne va pas chercher l'info, je trouve qu'on y est soumis.
L'alerte, c'est que nous risquons, avec des bonnes volontés au départ, de vaccins, d'empoisonner petit à petit toute la population qui va nous succéder, les enfants d'abord, les bébés. Et effectivement, je voudrais alerter d'abord sur les risques de mort subite du nourrisson.
7 novembre 2017, conférence du professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, décrié par ses pairs pour ses propos sur les vaccins.
Bonjour, c'est Jérôme Jadot de France Inter.
Premier étage à droite.
Merci.
On arrive au cabinet de conseil en communication Antidox qui travaille avec divers acteurs de la santé, dont des laboratoires pharmaceutiques, et qui a étudié la présence des pros et des anti-vaccins sur le web.
Xavier Desmaisons, président d'Antidox, un cabinet de conseil en communication, très spécialisé sur le digital. J'enseigne à Sciences Po les stratégies de communication.
Vincent Hospital, donc consultant chez Antidox, et je suis notamment spécialisé sur les questions d'analyse de l'opinion en ligne.
Xavier Desmaisons, vous avez constaté sur les dernières années un intérêt accru pour ces questions vaccinales sur le web ?
Il y a un regain d'intérêt très fort, il y a une augmentation de l'intérêt très fort sur cette question-là, avec plus 130% de recherche dans les 5 dernières années sur le sujet vaccination. Est-ce que je dois me vacciner ou pas ?
Alors, on va rechercher sur Google, faut-il se vacciner ? Et on va avoir, du coup, ici, les premiers résultats qui sortent, du type Dr. Kurt, pourquoi j'ai choisi de ne plus jamais vacciner mon fils ? Première chose qui ressort, un contenu anti-vaccin. Et on voit les premiers termes qui ressortent également à côté de la recherche, ça va être contre la vaccination, argument. Je ne veux pas faire vacciner mon bébé 2018, donc Google va automatiquement proposer ce type de requête.
Google va nous proposer effectivement des requêtes qui sont formulées par les gens. Et donc ce que les gens cherchent aujourd'hui dans lié à « faut-il se vacciner ?», c'est comment ne pas se faire vacciner. Les gens cherchent ça aujourd'hui. Hein. Vacciner bébé plus tard, vaccin invité pour bébé. Ça témoigne d'une grosse angoisse du public. La simple observation des requêtes nous permet de voir beaucoup de choses.
Vous avez observé de près les échanges sur la vaccination sur les réseaux sociaux, entre les pros et les anti-vaccins, qui est le plus actif ?
Alors, traditionnellement et depuis plusieurs années, c'est les anti-vaccins qui sont dominants, voire ultra-dominants, en termes de contenu publié. On a eu 3 fois plus en moyenne de contenu anti-vaccin et de prise de position anti-vaccin que pro-vaccin. Ça, c'est le tableau global. Après, dans l'année 2018, on a un moment de rupture avec un certain nombre de médecins, avec des institutions qui ont décidé d'expliquer leur prise de position, de raconter la vaccination et de proposer des contenus en faveur de la vaccination. Et on voit qu'aujourd'hui, dans les derniers mois, sur certains moments d'actualité, certaines controverses d'actualité sur la vaccination, les pro-vaccins peuvent être dominants. Donc la controverse évolue, comme toutes les controverses, et les pro-vaccins reviennent un petit peu dans le paysage aujourd'hui.
Sur Facebook, sur YouTube, c'est plus compliqué pour les autorités sanitaires de faire passer leur message favorable à la vaccination ?
Alors, ces espaces sociaux sont aussi des questions de maîtrise des outils technologiques. Et donc YouTube est une question de maîtrise de la vidéo, de forme de vidéo très courte, très bien balancée, avec des messages forts rapidement. Et donc du coup, ces nouveaux médias-là, les grandes institutions ont pris un peu plus de temps pour maîtriser la façon de communiquer. Sur YouTube, les vidéos, sur les 25 grandes vidéos consacrées à la vaccination, 18 sont anti-vaccination. Très peu sont pro-vaccination.
À l'égard des vaccins, il ne se limite pas aux patients. Selon une étude de l'INSERM publiée en 2015, un généraliste sur 10 est méfiant à l'égard des vaccins. 1 sur 4 pense que certaines vaccinations sont inutiles. Parmi ces médecins qui se posent des questions, Dominique Dupagne, il est généraliste à Paris depuis 30 ans, animateur d'un blog intitulé atout.org.
«
Déjà, j'ai pas de doute sur le fait que la vaccination en elle-même soit des plus grands progrès de l'humanité. Donc déjà, je me suis fâché avec tous les complotistes en disant ça. À côté de ça, j'ai une approche scientifique des vaccins comme de tous les médicaments. C'est-à-dire que pour moi, il y a des bons vaccins, des vaccins qui sont pas mal, des très bons vaccins, des vaccins indispensables. En fait, ça dépend à chaque fois du vaccin, de la situation que l'on veut prévenir.
Sur les 11 vaccins qui sont désormais obligatoires, y en a-t-il qui vous semblent pas indispensables ?
Je vous disais, tout est affaire de terrain pour certains. L'hépatite B, beaucoup de professions sont très exposées, des comportements sexuels sont très exposés. Alors on pourrait dire, tant qu'on y est, vaccinons tout le monde. C'est pas absurde comme comportement, surtout que généralement le vaccin contre l'hépatite B est mélangé avec les autres vaccins dans la même seringue et il y a un seul adjuvant pour tous. Et c'est l'adjuvant qui pose problème généralement dans les vaccins, c'est pas le produit. Donc ça paraît logique de l'associer. Maintenant, tout est affaire de risque. Par exemple, si je vous dis que si vous mettez un casque à vos enfants à l'arrière de votre voiture en plus de la ceinture, vous diminuez le risque de mourir d'un accident de voiture. C'est vrai. Bon, maintenant, est-ce qu'on va mettre des casques aux enfants à l'arrière des voitures ? Il y a un moment, si vous voulez, c'est où est-ce qu'on s'arrête ? Où est-ce qu'on va ? Et puis, il y a certains vaccins dont le bénéfice est hypothétique. Prenez le vaccin qui protège contre les virus responsables du cancer du col de l'utérus. Il y en a deux, le Gardasil et le Cervarix. Donc ces vaccins n'ont toujours pas à ce jour fait la preuve qu'ils protégeaient du cancer. On espère que ça sera le cas. Il faut 20 ou 30 ans pour le mettre en évidence. On a des arguments pour le penser, mais on aimerait bien une certitude quand même. Et à côté de ça, on a une autre certitude qui est qu'il provoque un accident sérieux, une paralysie régressive, une maladie inflammatoire de l'intestin, une fois sur 100 000 à peu près. C'est très peu, une fois sur 100 000. Hein. Ça veut dire 4 jeunes filles vaccinées par an si on vaccinait toutes les jeunes filles. Donc un risque infime d'un côté, un pari sur une efficacité de l'autre. On peut imaginer qu'il y ait débat. Il n'y a pas de réponse univoque sur oui, non. Parfois, les gens me disent qu'est-ce que vous feriez à ma place? Ça, c'est la question complexe. Moi, si j'avais des filles, je pense que je ne les vaccinerais pas contre le virus du cancer du col pour différentes raisons un peu plus complexes aussi. Mais il n'y a pas une évidence à vacciner contre le cancer du col, même si peut-être que bientôt on aura la preuve qu'il est efficace. À ce moment-là, ça deviendra une évidence.
Bernard Végaud, je suis professeur émérite Université de Bordeaux, faculté de médecine. Et donc, je travaille dans un centre de recherche sur la santé des populations, un centre de recherche INSERM.
Bernard Végaud, comment en est-on arrivé à un tel degré de défiance envers les vaccins ?
Personnellement, je pense qu'avec l'affaire du H1N1, la campagne contre l'hépatite B de 1994-2000, est un des grands facteurs du doute, parce qu'il y a eu effectivement une médiatisation très importante. Il n'y a aucun accompagnement dans cette campagne, qui a totalement raté sa cible. Elle est abandonnée aux firmes pharmaceutiques, pour parler clair, qui utilisent des messages totalement aberrants, en particulier le fameux « l'hépatite B tue en France en un jour plus que le sida en un an », à l'époque c'était d'une aberration, où l'hépatite B se transmet également par la salive, bon, ce qui était totalement faux aussi, même si on retrouve le virus dans la salive. Alors, je pense qu'il faut dire toujours la vérité aux gens et que rien ne justifie, même pour une bonne cause comme les vaccins, d'essayer de rassurer en ne présentant pas l'ensemble des éléments. Parce que si on fait cela, évidemment, on s'apercevra toujours un jour qu'il y a eu vérité partielle, et cela va alimenter la théorie du complot, à savoir les autorités nous ont caché quelque chose, sont de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques, etc., etc. Et je pense que cet élément central, et du coup on a une situation de crispation où les anti-vaccins par exemple sont de plus en plus anti, et les gens qui sont censés le défendre sont de plus en plus tranchés, et ça c'est une très mauvaise chose, et ça alimente ce degré de défiance qui est catastrophique.
Interception, le magazine de la rédaction. France Inter.
Oui, allô ?
On est en bas. Merci.
On est avec Edouard et sa maman. Edouard, vous avez 21 ans. Vous souffrez depuis 8 ans de narcolepsie, c'est un grave trouble du sommeil. Une pathologie survenue 5 mois après un vaccin contre la grippe H1N1. Comme 62 personnes en France, vous êtes indemnisé pour cela par l'ONIAM, c'est l'Office d'indemnisation des accidents médicaux. Comment se manifeste au quotidien cette narcolepsie pour vous ?
En moyenne, je dors à peu près 3 fois par jour, 4 fois. Ça peut être des siestes de 10 minutes, comme ça peut être une sieste de 2 heures si jamais j'ai pas assez dormi la nuit. En fait, ouais, c'est juste parce que ouais, je suis obligé de rester actif, sinon je m'endors. Voilà.
Ça va, vous piquiez du nez là,
Non, ça va.
Les crises de cataplexie, de chute de votre tonus musculaire, ça vous arrive à quelle fréquence ?
Ça m'arrive, on va dire, 3 ou 4 fois par semaine, en moyenne. C'est souvent une des deux jambes qui perd complètement le tonus, parfois les deux, comme si je tombais tout simplement.
C'est quand vous avez une émotion vive,
ouais.
Votre tonus musculaire chute.
Oui, c'est ça.
Vous avez été indemnisé par l'ONIAM, l'office qui est en charge des indemnisations pour les accidents médicaux. C'est une forme de reconnaissance aussi ?
Ah oui, bah ça complètement. Enfin, c'est la moindre des choses, quoi. Je pense que je le mérite vraiment. Et j'espère bien que l'indemnisation complète va arriver, parce que là, c'était que provisoire, vu que j'étais encore jeune, mon état n'était pas stabilisé. Ah mais oui, mais ça, c'est la moindre des choses, quoi. Parce que ils ont foiré, donc voilà, il faut qu'ils réparent l'erreur qu'ils ont faite, tout simplement.
Élodie, vous êtes la mère d'Edouard. Est-ce que cet accident a modifié votre regard sur la vaccination ?
Alors, c'est vrai qu'au début, je suis devenue assez sceptique par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il est important quand même, pour certaines maladies en tout cas, de se faire vacciner. Mais là, je pense que dans le cas de la grippe H1N1, ça a été fait trop rapidement, en grosse quantité, dans la précipitation, avec aucun recul, j'ai l'impression, en tout cas, sur la vaccination, notamment sur les adjuvants. Apparemment, c'est surtout l'adjuvant qu'il ait eu une maladie auto-immune en fait, hein, qui a détruit l'hypocrétine. Donc voilà, sur des vaccins comme ça qui sont faits dans la précipitation, etc. Je suis complètement contre. Comme certains vaccins qui sont encore récents où on n'a peut-être pas assez de recul, je le ferai pas personnellement. Comme je vous avais dit, si j'avais une fille, bon, le vaccin, il est peut-être bien, hein, je ne sais pas, hein, je suis pas médecin, contre le cancer de l'utérus. Voilà, moi, je l'aurais peut-être pas fait pour une fille parce que j'ai eu le problème d'Edouard. Maintenant, avant qu'Edouard ait ce problème, on a toujours fait tous nos vaccins, etc. Mais c'est vrai que là, quand je vois la campagne où c'est 11 vaccins obligatoires pour les bébés, ça me paraît énorme, quoi, aussi, parce que c'est vrai que tous les enfants vont peut-être pas réagir de la même façon et qu'il y a peut-être des bébés qui vont mal le supporter. C'est quand même énorme, quoi, 11 vaccins d'un coup. Enfin, ça a créé du doute, mais pas sur tous les vaccins.
On est à Santé publique France, l'organisme chargé de la communication des autorités sanitaires. On a rendez-vous avec Daniel Lévy-Brulle. Il est épidémiologiste responsable de l'unité vaccination. Est-ce qu'il n'y a pas une source de confusion dans le fait que la justice ordonne parfois l'indemnisation de personnes qui ont contracté, par exemple, des scléroses en plaques suite à des vaccinations obligatoires, et de l'autre, des organismes de santé publique qui disent « il n'y a pas de lien ». N'y a-t-il pas là une source de confusion aussi dans l'esprit des gens ?
Il y a effectivement une source de confusion entre ce que les données de la science permettent d'affirmer et certaines décisions de justice qui sont prises à la suite d'une revendication d'un lien entre une vaccination et la survenue d'une maladie. Je pense que c'est un problème de forme. En matière médicale, comme dans toutes les matières scientifiques, on a rarement des certitudes absolues. Et donc, quand on dit qu'il n'y a pas de risque associé à tel vaccin, il est extrêmement difficile au niveau individuel d'affirmer avec une certitude absolue que, dans un cas totalement exceptionnel, cette personne n'a pas été la seule victime d'un réel effet de la vaccination. Avec cette logique scientifique de se dire que le doute doit forcément bénéficier à la victime, je ne suis pas du tout opposé, je pense que je ne suis pas le seul, au fait que dans le doute, on dise, bon, on n'y croit pas, c'est très certainement pas le vaccin, mais comme on ne peut pas être sûr à 100%, on va quand même vous indemniser. Et donc la décision ne me pose pas de problème.
Comment est-ce que vous analysez ce mouvement de scepticisme face à la vaccination en France ?
Alors, une raison qui est commune à l'ensemble des pays qui, comme la France, ont mis en œuvre depuis très longtemps des programmes de vaccination, c'est d'abord le fait que la vaccination est victime de son succès. Aujourd'hui, quel jeune parent a connu ou connaît quelqu'un qui est paralysé suite à une polio, qui a entendu parler d'un enfant qui serait décédé des suites d'une diphtérie ou d'un tétanos, voire d'une rougeole. Et donc aujourd'hui, les gens ont l'impression que ces maladies ayant disparu, il n'est plus besoin de se vacciner. Et ce qui reste dans la perception de la vaccination, c'est non plus la crainte de la maladie, mais la crainte des effets secondaires. Ils existent. Certains sont réels, d'autres sont simplement suspectés d'être liés à la vaccination, mais c'est ça qui finalement remplit l'inconscient collectif autour de la vaccination. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit partout. Après, il y a des raisons plus spécifiques au contexte français. Il y a d'abord quelque chose qui nous ramène à la loi récente sur l'extension des obligations vaccinales. Le fait que dans le calendrier français, en particulier pour le nourrisson, coexistaient des vaccins avec des statuts différents. Certains étaient obligatoires, d'autres étaient recommandés. Et ceci a créé de la confusion. Ce que nos enquêtes ont montré, c'est une sorte de consensus autour du fait que s'il y a des vaccins obligatoires et d'autres qui ne le sont pas, c'est que ceux qui ne le sont pas, ils ne sont pas aussi importants. Ou, voire plus, c'est que s'ils ne sont pas obligatoires alors que certains le sont, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et en ce sens, le fait d'avoir étendu les recommandations pour les transformer en obligations pour tous les vaccins du nourrisson, nous pensons que ça a une valeur symbolique forte pour rassurer la population, mais également les médecins, sur le fait que oui, l'État est bien derrière toutes les vaccinations du nourrisson, et il n'y a pas finalement des vaccins qui seraient facultatifs et d'autres qui seraient obligatoires.
A-t-on une idée de l'impact qu'a pu avoir le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les enfants qui sont nés cette année ?
Alors, il est encore trop tôt pour faire le bilan, puisqu'il faut laisser le temps à ces enfants qui sont nés en janvier 2018 ou après de grandir et d'être vaccinés. Mais on a déjà des premières idées en regardant les activités de vaccination de début 2018. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est que la proportion des enfants, des nourrissons, qui sont vaccinés à 2 mois ou à 4 mois, aujourd'hui, il y en a 6% de plus qui ont été vaccinés avec un vaccin qui contient l'hépatite B par rapport à ce qu'on avait observé au premier semestre 2017.
On vous retrouve, Dominique Dupagne, médecin généraliste à Paris. On va terminer ce reportage avec vous. Vous regrettez, vous, ce choix de l'obligation ?
Ah ben, je l'ai même critiqué. Bon, dès qu'il a été pris, j'ai arrêté parce que je ne voulais pas me joindre au concert des anti-vaccinaux. Mais je pense que sur un plan stratégique, être maintenant le seul pays européen à avoir une tripotée de vaccins comme c'est obligatoire, c'est une preuve d'échec de la communication scientifique des autorités sanitaires sur le vaccin. Ça veut dire on n'a pas réussi à vous convaincre, donc on vous oblige. Parce que l'obligation provoque toujours en retour une réaction. Si vous interdisez à un enfant de boire, il va picoler. Bon, si vous lui dites « fais attention, sois prudent », il va boire moins. Et donc, forcément, vous allez générer dans le public une défiance. Surtout, encore une fois, que le public peut accéder à des informations qui montrent que soit des informations solides qui montrent que l'intérêt du vaccin est relatif, soit des informations complotistes tellement bien présentées qu'il va y adhérer. Et en face, il n'y a aucun discours officiel crédible. En fait, les autorités sanitaires se refusent à descendre dans l'arène pour aller bagarrer avec les complotistes, mettre à plat leurs arguments, montrer en quoi ils ont tort. Ils se drapent dans leur dignité scientifique, ce qui est désastreux en termes de communication. Pour aboutir à cette fameuse obligation, c'est peut-être efficace à court terme, c'est désastreux à long terme.
Anti-vaccin, le doute inoculé, c'était un reportage de Jérôme Jadot. Hélène Langlois a assuré la prise de son. Audrey Ripouille a réalisé cette émission avec l'assistance de Stéphane Combe. Mixage, Benjamin Orgeret. À la semaine prochaine.